RMC.
Comment tu peux me faire ça, Colin? Comment, Rebecca, tu peux me faire ça? À moi, ta copine. Comment?
Pour revenir sur Dzeko un instant, parce que moi, c'est, vous le savez, hein, j'en ai parlé souvent, c'est un joueur que j'adore. Et je pense qu'en numéro 10, on n'aurait pas été loin d'un niveau de Zidane.
Salut Zizou. Merci Zizou.
Il y a des choix individuels qui ont été faits par Tourelle que je trouvais très intéressant ce soir, le fait de laisser Thomas Tourelle sur le banc.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Et oui, c'est Génération After spécial drôle de dame. Exceptionnellement le mardi soir, la seule émission, vous le savez, qui à la radio parle pendant 2 heures de football étranger avec 4 experts. Toujours moins cher que Dazen, même après la ristourne. C'est parti les amis, on est ensemble jusqu'à 22h. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui a quand même trouvé le temps de regarder la Nationalmannschaft malgré la Vuelta, alors que les JO, rien à faire. Polo Breitner, bonsoir mon cher Polo. Polo, es-tu là?
Je regarde les JO,
ouais.
Mais seulement les activités qui m'intéressent.
À savoir, le vélo.
Bah le fait. C'est tout.
Pour l'Italie, une drôle dame qui, tel Garibaldi, vit son Risorgimento, reconstruction et unité autour de la nationale et de la GIA. Bonsoir, Johan Crochet.
Bravo, Nico. Bonsoir à toutes et à tous.
Pour l'Espagne, une drôle dame qui a été plus émue par la nomination de Michel Barnier que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real. Bonsoir, Fred Armel.
Je l'ai pas vu venir celle-là.
Moi non plus.
Ah ouais, d'accord. Écoute.
Bah, si tu veux réagir,
c'est kiff-kiff.
Ouais, c'est kiff-kiff. Hein. Kiff-kiff. Pour l'Angleterre, une drôle dame qui est orpheline de son Sylvain Ripoll anglais. Laissez-lui encore quelques matchs et Lee Carsley deviendra le Ghislain Printemps anglais. Bonsoir, Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous. Je pense que Lee Carsley ne prendra pas le même chemin que le Sylvain Ripoll.
J'ai l'impression que ça part bien pour l'instant. Même s'il y a une polémique, on en parlera. Vos 3 points, les drôles de dames, 15 secondes chacune. Je commence avec toi, Johan.
On va évoquer évidemment les 2 matchs de la nationale et avec 2 angles précis, les gagnants et les perdants de ce début de nouveau cycle en sélection. Et parmi les gagnants, il y a David Efratesi, un vrai focus sur lui. Le seul joueur qui est indispensable, mais qui est quasiment jamais titulaire.
Polo.
Bon, évidemment, on va s'intéresser à cette nouvelle Nationalmannschaft et notamment à un certain duo Wirtz-Moussiala. Une minute un petit peu spéciale où on ira voir du côté d'Offenheim et puis on aura peut-être un petit débat sur les formats de qualification.
Fred.
Bien entendu, on va parler de la Roja, l'équipe de la sélection espagnole, avec quelqu'un qui impressionne tout le monde, Fabián Ruiz, hein. Ça va intéresser les Parisiens. On va parler aussi de la fin de l'obsession, du dogme de la possession. C'était que 38% l'Espagne face à la Suisse en Suisse. On va parler aussi, il y a une idée de Polo, de ce club dans notre championnat qui nous intéresse pas du tout, ou en tout cas moins que les autres. Et moi, bien entendu, j'ai le mien, je ne veux pas le dire, mais sauter à l'esprit tout de suite.
Julien.
On va parler de l'Angleterre aussi, bien sûr. Deuxième match ce soir, là, tout à l'heure, à 20h45, heure française. On va parler d'Harry Kane. Est-ce qu'il y a un débat autour d'Harry Kane? On va parler de Lee Carsley, on l'a dit tout à l'heure déjà, le nouveau sélectionneur, en tout cas par intérim. Et puis, une petite minute sur nos amis gallois et Craig Bellamy.
Voilà le programme des drôles de dames jusqu'à 22h sur RMC. Je vous rappelle, à 21h45, elles seront face à vous, auditeurs d'RMC et de l'After. Vous appelez le 32-16 est ouvert. Posez vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien. Et puis à 22h, bien sûr, l'After avec Gilbert. Bonsoir, Gilbert.
Salut les gars. Vous savez que vous me faites rêver. Hein.
Quoi?
Bah parce que nous, on va parler élection à la Ligue.
Et élection à la Ligue.
Plainte de l'UNFP contre l'UNFP et Panini. Enfin, que des sujets, des trucs, voilà,
déprimants.
Le football français, quoi, qui va bien, qui se régale, qui nous régale de jour en jour. Bon, il n'y aura pas que ça, mais il y aura ça tout de même, puisque donc on va décrypter ce qui s'est passé aujourd'hui lors de l'élection de la Ligue. Vincent Labrune réélu triomphalement cet après-midi. Et on va également parler de l'équipe de France parce que Florent Gautreau veut clôturer la semaine équipe de France avec un dernier débat autour de la gestion à venir de Griezmann et Mbappé. Et puis l'OM est de retour, conférence de presse de De Zerbi et Mopé ces dernières heures. On va en débattre également ce soir, sans oublier les matchs internationaux de ce soir. Donc on aura quelques drôles de dames avec nous après 23h, les gars, parce que vous êtes concernés par les matchs qui démarrent tout à l'heure à 20h45 pour certains d'entre vous.
Exactement, Angleterre-Finlande et Pays-Bas-Allemagne.
À tout à l'heure,
Gilbert, pour l'after. Tiens, détour également par le direct. C'est l'équipe de France Espoir qui joue contre la Bosnie-Herzégovine. Match de qualif pour l'Euro Espoir 2025. Valentin Jamin est sur place. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Ça se passe très bien pour les Bleus qui mènent 2-0 à 10 minutes de la fin. Marnès Akliouche, un peu après la demi-heure de jeu. Et Hugo Ekitike pour sa première sélection qui a marqué un pénalty en deuxième période qu'il avait lui-même provoqué. Même schéma qu'en première période, sauf qu'il avait manqué le pénalty qu'il avait provoqué. Donc le joueur de Francfort qui fait un bon début de saison marque pour sa première titularisation et première sélection avec les Espoirs. 2-0 pour les Bleus, match de qualif à l'Euro 2025. Faut terminer premier de la poule pour s'assurer la qualif. Pour l'instant, les Bleus sont deuxième, mais il restera deux matchs ensuite et ils ont leur destin en main. Il reste 10 minutes dans cette partie 2-0.
Ça fait des audiences chez vous les amis, les matchs Espoirs ou pas? Est-ce que c'est une préoccupation?
C'est même pas la télévision.
Non, c'est même pas la télévision.
Même pas voir. C'est même pas la télévision.
On espère que tu le vois. Non, c'est pas.
Rien à faire.
Si on le voit en Allemagne, et c'est redevenu très très important et comme une figure de proue du football allemand. Quoi. Lorsqu'ils se sont fait éliminer pour l'Euro, que je vous dise pas, ils s'étaient pris 4-0, je sais plus, face à la Suède ou au Danemark ou au Portugal en demi-finale d'un Euro, et c'était devenu c'est presque un scandale national. Donc c'est diffusé, et par contre, en fonction des pays, c'est pas forcément bien diffusé. Quoi.
C'est suivi pas par une grande majorité. Ce qui est bien aussi qu'on a en Italie, c'est que le site de la fédération diffuse beaucoup de catégories de jeunes, y compris les U17, U18, U19, U20. Il y a des matchs qui sont disponibles gratuitement sur le site de la fédération.
Donc du foot gratuit. Exactement. Ça fonctionne toujours un peu mieux, bien sûr. L'Espagne, Fred, qui surfe toujours sur sa vague estivale. Un 0-0 miraculeux pour la Serbie, jeudi. Et un carton contre la Suisse dimanche soir, 4 buts à 1, à 10 contre 11 pendant quasiment 75 minutes.
Parce que le Normand a été expulsé au bout de la 20e minute.
Dès la 20e, ouais. Doublé de Fabien Ruiz. Tu voulais en parler ce soir, il est sur un nuage depuis 3 mois. Je pense au supporter parisien qui se demande qui est ce Fabien Ruiz.
Il y a même des Espagnols qui se demandent qui est ce Fabien Ruiz. Parce que finalement, et on en discutait avec Johan, et je vais demander l'avis de mon ami spécialiste du foot italien, le club dans lequel il est resté le plus longtemps, c'est quand même Napoli. Hein, il est resté 4 ans. Je veux dire, Fabien Ruiz, c'est quelqu'un qui était formé au Betis, qui était au Betis B, qui est resté 2 ans au Betis, qui avait été prêté à Elche en deuxième division. Après, il part 4 ans au Napoli, et après, il vient au PSG. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un joueur important dans le championnat espagnol. C'est-à-dire que c'est sur le championnat espagnol, bah, tu calcules, c'est une saison de première division et une saison de deuxième division. Donc voilà, on est un joueur qui était considéré comme un bon petit joueur. Mais la question, c'était le premier drôle de dame, alors que tu étais encore sur les routes américaines, le premier drôle de dame de l'été, je m'étais dit, de toute façon, moi, ce qui va vraiment m'intéresser cette saison, c'est de voir comment ces joueurs qui ont explosé pendant l'Euro vont réagir. Est-ce qu'ils vont s'inscrire dans la continuité? Est-ce qu'ils vont maintenir ce niveau? Ou est-ce que ça aurait été, tu sais, un moment de grâce où tout a fonctionné, un groupe, tu sais, il y a un moment, c'est le contexte qui fait que tu es vraiment plus fort que tu l'es. Alors, on va se poser la question sur Lamine Yamal, on va se poser la question sur Dani Olmo. Bon, Dani Olmo, il y a plus ça ici au Barça, donc on va se pour l'instant c'est pas trop mal. Et bien entendu, on va se poser la question sur Fabien Ruiz, parce que Fabien Ruiz, c'est quand même pas un joueur sur le papier où tu te dis ah ouais, on avait parlé de lui au Real, on avait parlé de l'Atlético, on avait parlé de lui au Barça. Non, pas du tout. Et donc voir Fabien Ruiz après ce moment magique de l'Euro jouer en patron, c'est-à-dire quelle que soit la configuration du match, là l'Espagne est menée pendant 70 minutes. Ben, Fabien Ruiz, il a ce qu'on appelle le template en espagnol, c'est-à-dire qu'il sait jouer le rythme, il sait quand accélérer, il sait quand ralentir le jeu, etc. Il y avait un papier dans le journal Marca qui disait, ben, si en plus il met plein de buts, voilà, qu'est-ce qu'il devient?
Comment tu l'expliques ça, en fait? C'est un homme qui marche à l'affect.
Il a déjà 28 ans. Hein.
Mais il a un homme qui lui fait confiance.
Eh ben voilà.
Il donne beaucoup d'amour.
Il y a Luis de la Fuente. Vous avez votre sélectionneur qui, après le match contre la Suisse, dit de toute façon, Fabien Ruiz, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Alors, il le pense vraiment. Après, vrai ou pas, il y a un débat. Mais en tout cas, il le dit. Bah, ça te gonfle. Moi, je trouve qu'il a une maturité qui arrive, tu me diras, 28 ans. Aujourd'hui, on arrive à maturité peut-être un peu plus tard dans le football. Parce que les carrières durent un peu plus longtemps. Donc, 28 ans, il a une vraie maturité. bah aussi, je pense qu'il surfe encore sur son mondial, où il a tenté des choses, il a tenté des frappes, il a tenté des passes.
Son euro.
Son euro, pardon. C'est, tu vois, il est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est évident dans cette sélection espagnole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on sait qu'il va être titulaire. D'ailleurs, Rodri n'est pas titulaire au premier match, voilà, parce qu'il a besoin de se reposer un petit peu, etc. Fabien Ruiz, eh ben, on n'imagine pas aujourd'hui ces deux matchs de Ligue des Nations sans lui. Et il joue, et il est titulaire. Il joue 77 minutes le premier match contre la Serbie, et il joue 80 et quelques le deuxième match en Suisse. Donc, moi, je suis très, très impatient de voir comment Luis Enrique va pouvoir lui aussi récupérer les fruits de Luis de la Fuente. Voilà.
Johan, t'es surpris par son évolution, en tout cas en sélection, hein, au PSG, on l'attend. C'est un joueur qui a quelques bons matchs, mais qui ne s'est pas imposé à Paris depuis son arrivée il y a maintenant deux ans.
Bah, moi, je peux surtout évoquer le Fabien Ruiz du Napoli, pas trop en sélection, parce que ce n'est pas une sélection que je suis au quotidien. Donc, même si j'ai vu des matchs à l'Euro, j'ai un peu de difficulté à évaluer l'ensemble de sa progression. Au Napoli, ça a été un joueur très irrégulier, qui avait des pics très très hauts, d'état de forme, d'état de grâce quasiment sur le terrain, où il y avait une espèce de cheat code, un code de triche entre guillemets, où ça réussissait à chaque fois, si vous voulez. C'est centre en retrait, Fabien Ruiz est aux abords de la surface, petite frappe enveloppée et ça finissait souvent au fond. Ça a été un des joueurs qui marquait le plus de buts de l'extérieur de la surface en Serie A pendant qu'il
était.
En se projetant, évidemment. Il a évidemment cette qualité technique de tempo. Mais c'est aussi un joueur qui avait des phases où il était très, très effacé du jeu.
Ah
oui. Où il ne prenait plus beaucoup de responsabilités. Où il ne prenait plus beaucoup de risques. Où c'était très latéral. Où ça ne faisait pas spécialement avancer le jeu. Donc moi, c'est pas que je sais pas comment l'évaluer, mais ça peut pas être un top joueur par rapport à moi ce que j'ai fait. En tout cas, en Italie, ça a jamais été un top joueur. Ça a jamais été non plus un mauvais joueur. Ça a été un top joueur sur 3 mois, un mauvais joueur sur 3 mois, un top joueur sur 3 mois, un mauvais joueur sur 3 mois. Quel est son niveau réel? C'est difficile. Si ses pics de forme ne durent que 3 mois chaque saison.
Eh ben oui,
tu peux pas compter. Ça crée des limites quand même qui sont importantes.
En tout cas, mais en sélection, on peut compter sur lui. Et ça, c'est. En plus, faut quand même reconnaître, c'est un joueur élégant sur un terrain.
Bien sûr.
Oui, mais ça, il l'a toujours eu. Mais
le port. Moi, j'aime beaucoup les joueurs qui ont le.
Oui, le port entier, mais une certaine lenteur dans l'exécution parfois.
Mais on appelle ça le.
Ouais, mais ça. Élégant aussi, peut-être.
Moi, j'aime bien aussi,
Julien.
Non, gaucher aussi. Les gauchers sont toujours bons.
Ouais. Moi, j'ai vraiment des.
T'es droitier ou gaucher, Julien?
Droitier, moi, mais je reste élégant quand même.
Enfin, moi, j'ai des souvenirs comme à Naples de demi-saison. C'était pénible, vraiment.
C'est mal fini d'ailleurs, on n'en voulait plus à la fin.
Évidemment. Oui, oui, bon, après, à Naples, c'est.
Ça finit rarement bien.
Mais moi, vous parlez de Fabien Ruiz, mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus important. Moi, c'est l'équipe qui m'a impressionné.
Bien sûr.
C'est-à-dire cette une capacité à.
Ah oui, contre la Suisse,
à défendre, contre la Suisse. Ah bah, une capacité à défendre à 10 contre 11, qui n'était pas forcément la panacée pour connaître cette équipe. Alors évidemment, côté Suisse, ceux qui ont pris leur retraite internationale, on voit que le tiroir en Suisse, il est pas extraordinaire, parce que quand on commence à sélectionner Wüthrich, qui est responsable sur les deux premiers buts espagnols, ça devient compliqué. Donc Wüthrich, il a 29 ans, il joue au Sturmgrass. Donc si c'était un grand défenseur, on le saurait depuis longtemps. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est que lorsque l'Espagne se retrouve à 10 contre 11, c'est que on parle du beau football espagnol, mais les mecs ils ont travaillé pour garder ce résultat. Et je trouve que c'est presque plus important que de sortir un joueur de la sélection aussi bon a été Ruiz sur cette rencontre. C'est-à-dire moi c'est ça qui m'a frappé. Le 4-1, il débarque comme si c'était une équipe mature, l'équipe mature de 2024 à l'Euro qui maintenant qu'elle avait gagné, allait écraser tout le monde. Et même il pouvait lui arriver n'importe quoi. Et ça, je trouvais ça flagrant dans l'équipe, parce que quand les Suisses reviennent à 2-1 juste avant la mi-temps, tu te dis ah génial, ça va faire une superbe seconde mi-temps, ça va faire une attaque défense avec les Espagnols qui doivent violer compte. Et c'est pas exactement ça ce qui se passe. Donc moi j'ai été impressionné par l'Espagne à ce niveau-là, et puis bon évidemment les Suisses ont perdu quelques joueurs qui va être difficile à remplacer, même s'ils jouaient pas mal dans le jeu par rapport au football espagnol, mais c'est ce qui est important, c'est l'Espagne aujourd'hui, c'est pas la Suisse quoi.
Alors la question de la possession, parce que j'ai vu des messages des réflexions. Oui, c'est normal qu'il n'ait pas la possession. Ils ont été
à 30%
à 10 contre 11. D'accord. Mais c'est le plus bas taux de possession depuis 1994 à un match contre la Corée. Donc on est quand même dans un...
Laquelle
Corée? Corée du Sud. Donc, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'Espagne, sans la possession, elle est capable de gagner 4-1 en Suisse. Tu comprends? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Espagne ne dépend plus de la possession pour gagner. C'est ça, aujourd'hui, il y a aucun dogme d'un côté comme de l'autre. C'est pas on refuse la possession, non, parce qu'ils ont normalement toujours la possession, parce que du fait de leur formation, on dit toujours, et de l'importance des milieux de terrain, logiquement, l'Espagne a la possession.
Ils l'ont de fait, ils l'ont en finale contre l'Angleterre.
Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un problème et que t'as pas la possession, tu es capable d'adapter ton jeu et de faire autre chose et de gagner quand même. Et c'est ça la force de l'équipe de la Fuente.
C'est surtout en deuxième mi-temps, parce que moi j'ai pris les quart d'heure par quart d'heure la possession sur le match Suisse-Espagne. Il y a des choses très intéressantes. Dans le quart d'heure de l'expulsion, donc c'est l'expulsion, elle a lieu à la 20e. Entre la 16e et la 30e minute, et là où tu peux te dire ils auraient paniqué, etc., ils ont 54% de possession. C'est-à-dire que même à 10 contre 11, dans ce quart d'heure-là.
Mais les amis, parce qu'il y a une
la gestion, la gestion ne se fait pas d'abord par la défense, jusqu'à la mi-temps. Elle se fait dans la conservation du ballon, dans la sécurisation, dans la possession défensive. Ce qui est autre chose que la possession constructive pour se créer des occasions. Et ce côté-là, malgré tout, reste bien ancré.
Voilà pour l'Espagne. Voilà pour Fabien Ruiz. Dans un instant, Kane est-il toujours aussi indispensable, indiscutable avec la sélection anglaise? On pose la question et on en débat avec Julien Laurence notamment et les trois autres drôles de dames. Vous écoutez RMC, on revient dans un instant.